atteint d'une crise d'angoisse et d'une petite migraine, Dr. Pascal Obinachka s'interroge.
Comment être heureux et malade à la fois? Je vous le demande, Martina.
Ah, si vous saviez comme il s'est soigné ici, professeur, j'oserais faire l'hypothèse que le peuple est fait fort.
Le premier médecin qui est arrivé à Rouen, c'est le docteur Ernest Linklater. Il avait été approché par la mine en 1925.
François Labbé.
Chaque entreprise qui avait plus de 25 employés, qui était dans un secteur plus éloigné, devait, selon une loi fédérale, engager un médecin. Donc, la mine le payait. Et après, aussi, il devait faire un certain temps pour l'hôpital, qui est construit un peu plus tard, en 1926.
La construction d'une école-chapelle qui sera sous le vocable de Saint-Louis de Gonzague était commencée depuis le printemps.
Sœur Gisèle Lemay.
La moitié du premier étage servira de classe, l'autre moitié sera le domaine des religieuses. Cette unique pièce sera, selon l'heure du jour, cuisine, réfectoire, dortoir, salle de communauté, voire dispensaire pour les malades deux fois par semaine. Et en cas d'extrême urgence, salle d'opération. Les deux sœurs infirmières soignent les malades à domicile. Deux voisins du couvent céderont au besoin quelques chambres pour hospitaliser des cas d'urgence.
Parce qu'à Rouyn-Noranda, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, des prospecteurs, des aventuriers, des mineurs. Sur la fonderie est créée en 27 et apporte énormément de gens. C'est un boom économique et démographique. Les familles ont besoin de soins en hiver, les maisons sont mal isolées, c'était une nécessité d'avoir un hôpital. On décide de construire l'hôpital Youville en 1929 parce que l'hôpital des Saints-Anges est déjà rendu trop petit. En 1928, on fait une annexe, mais c'est pas suffisant.
Ensuite, c'est la mine qui a demandé que la construction se fasse dans Noranda.
Sœur Gabrielle Ramé.
Les sœurs sont déménagées.
Edmund Horn, qui à la base, en 1926, dans leur plan d'urbanisme, avait décidé d'intégrer un hôpital plus près de la Noranda.
En 1930, à la demande des directeurs de la mine de Noranda, et grâce à leur générosité, la communauté, comptant sur des octrois provinciaux, entreprend la construction de l'hôpital Youville de Noranda.
Hôpital Youville, notes historiques. L'hôpital Youville de Noranda a ouvert ses portes le 14 août 1930. La fondation proprement dite de l'hôpital est cependant antérieure à cette date. Elle coïncide presque avec l'arrivée des Sœurs Grises de la Croix à Rouen en octobre 1925. Noranda n'était pas connu alors, même à Rouen il n'y avait que quelques maisons en bois rond. Il n'était pas question de trottoir ni d'électricité et beaucoup d'autres commodités qui semblent indispensables, tant on a l'habitude de s'en servir, manquaient quand sœur Sainte-Marceline, supérieure et fondatrice, et ses trois compagnes arrivèrent dans la région.
Le plus que 10 000 habitants dans Rouyn-Noranda en 1931, ça va très vite. Tout le monde avait besoin des soins, que ce soit les mineurs, que ce soit les bûcherons, plus de population, donc plus de blessés.
La frontière. Septembre 1937. À cause du développement considérable des deux villes et aussi d'un fort contingent de nouveaux venus dans la région, l'édifice qui semblait vaste il y a 7 ans est, depuis quelque temps déjà, rempli à capacité. Actuellement, 14 religieuses et 16 gardes-malades sont employés au service régulier des malades. 12 médecins de l'une ou l'autre ville y donnent leurs soins aux patients. L'hôpital a une capacité de 80 lits. Ce nombre a souvent été dépassé pour répondre aux demandes d'urgence. Le nombre de patients inscrits sur les registres au cours de ces 7 dernières années est de 9548, chiffre qui dit assez éloquemment le travail accompli par le personnel religieux et laïc de l'institution.
Aller jusqu'en 1937, on puisait l'eau directement du lac Osisko. Le problème avec l'eau du lac Osisko, c'est que tous les gens habitent les berges et même l'hôpital qui était situé sur la rive sud du lac Osisko, ben, jetait ces déchets-là aussi. Tout le monde jetait leurs déchets. La mine, dans le Rondomine, jetait aussi ses déchets, donc tout le monde tombait malade. Et c'est une initiative de la mine en 1937 d'avoir un système d'aqueduc qui part directement du lac du Fou. Cet aqueduc-là a permis justement d'avoir moins de problèmes pour la santé des gens. Il y a certaines maladies, je pense à la silicose, qui est reconnue en 31, mais en 33, elle n'est plus reconnue comme étant une maladie industrielle. C'était reconnu beaucoup plus tard, en 38. C'est une grande demande de tous les grévistes qu'il y a eu à peu près au Québec. Mais il y avait beaucoup de cas de silicose et tout le monde le savait, donc, que dans les mines au Québec, c'était comme ça. Avant 1945, les femmes accouchent rarement à l'hôpital.
Puis pour d'autres, ils ont commencé à vouloir les transporter à l'hôpital à Rouen. Mais quand tu es arrivé à Rouen, à l'ancien hôpital, ça, c'était géré par les sœurs. En arrivant au comptoir, ils ont dit, « Madame, est-ce que vous avez de l'argent à payer? Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas accoucher ici, madame. Vous allez vous en retourner chez vous. »
Jusqu'à 1960, ben, c'était le régime du ministère de la Santé. Il y avait des malades qui pouvaient payer leur hospitalisation, qui avaient des assurances. Puis, il y avait le régime de l'assistance publique. Alors, le régime de l'assistance publique, ça veut dire que les malades qui ne pouvaient pas payer leur hospitalisation, il y avait le tiers qui était payé par le gouvernement, le tiers qui était payé par la municipalité, puis le tiers qui était donné par la communauté.
Tout le monde utilise d'autres méthodes. Bon, ça coûte très cher aller à l'hôpital quand même, pour des gens qui sont très pauvres. Les bûcherons, la majorité des années 30, ne gagnent pas une pièce par jour pendant la crise économique. Dépenser de l'argent pour aller voir le médecin, ça devait être très grave.
Si vous venez faire empirer, brossez-vous à vite, vite, en train. Si vous avez mal au cœur, prenez une pause de pine à l'heure.
Madame Desrosiers, dans le bas de la côte, là, de Rouen-Sud.
Réjeanne Richer-Lessard.
On dirait que mon Dieu faisait des miracles, là. Elle avait soin pas mal des malades. C'était une madame qui avait un don. Tous ceux qui avaient confiance, là, pouvaient aller, puis à charge à rien, les gens donnaient s'il y en avait. C'était quelqu'un qui nous protégeait, là.
Si vous avez peur de la mort, prenez une dose de l'huile 14. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas l'influenza.
Il y en avait qui avaient des dons pour l'arrêter le sang, d'autres pour enlever verrues, d'autres toutes sortes de choses. Moi, on était débrouillards.
Laurent Roy.
Mais on avait une garde malade, une infirmière, qui demeurait à Clérécie. Mais avant ça, il y avait un docteur qui passait, il venait soigner les malades.
La frontière, jeudi 9 juin 1938. Le docteur Émile Martel, officier médical du ministère de la Santé, d'Amos, est venu cette semaine donner la première injection contre la fièvre typhoïde. 469 personnes se sont présentées pour cette première injection.
Après, c'était la garde malade qui s'était installée définitivement. C'est elle qui faisait les accouchements. Elle faisait les soins de santé de base, là, qui étaient absolument nécessaires. Quand c'était trop grave, ben là, ils envoyaient à l'hôpital à Rouen. Bien souvent, c'était par le train. Il y avait aussi des concours de la Croix-Rouge qui consistaient à enlever les imidales. Dans le temps, c'était la mode. Il arrivait avec un camion, puis il s'installait d'une maison, t'installait sur une table, puis là, il t'arrachait les imidales. Là, il t'endormait avec un masque qu'il te mettait, il couvrait le visage. Puis là, ils te pompaient, ils le reforment, là, tu tombais en poche. Quand tu travaillais de là, t'avais la gorge rude, m'a dit quelque chose.
L'unité sanitaire, il partait avec un convoi et allait faire la tournée des petits villages. Souvent, c'était après la messe qu'on soignait les gens. Il y avait deux infirmières, un dentiste et un médecin. Le but était de soigner les enfants et de vacciner les enfants. Les infirmières de colonie, eux, s'occupaient surtout des malades. L'unité sanitaire, elle, s'occupait de la prévention. C'est vraiment un aspect préventif. Dans les années 40, on retrouve beaucoup de médecins qui travaillent à trois endroits. Le matin, allaient voir les patients à l'hôpital, se rendaient à leur clinique, et plusieurs médecins avaient aussi une pharmacie.
J'ai un conseil à vous donner. Vous êtes mieux de vous faire soigner. Avant que ça aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on entre trop longtemps, ça finit par un enterrement.
Mais les infirmières, habituellement, étaient de jeunes femmes célibataires.
Alors, on avait le choix de secrétaire, professeur ou d'infirmière.
Marie Bonapace.
J'ai choisi infirmière. Alors, j'ai dû venir à Rouen parce que c'était l'école la plus proche de nursing qu'on appelait dans le temps. J'entrais comme pensionnaire au pavillon Youville où on faisait le vrai cours traditionnel de nursing. Sous la bannière de Florence Nightingale.
Moi, je suis arrivée à l'hôpital en 1952 pour enseigner aux étudiantes infirmières parce que l'école a commencé en janvier 1950. Puis j'étais à l'école tant que l'école a existé jusqu'en 68. L'école des infirmières, on sentait qu'on avait vraiment besoin d'une formation d'infirmière au niveau de la région si on voulait avoir des infirmières en service à l'hôpital. C'était vraiment un inconvénient que lorsque des malades avaient besoin de soins spéciaux, il fallait les envoyer dans un centre éloigné comme Montréal, Québec et le reste.
Les professeurs qui nous enseignaient dans notre cours de nursing, c'était des religieuses à qui appartenait l'hôpital. On faisait un cours de 3 ans. Il y avait des médecins de l'hôpital qui donnaient des cours. On avait de la formation avec d'autres spécialistes.
Au début, là, les premières employées, nous les gardions à l'hôpital. C'était presque une sécurité pour les parents, hein, parce qu'elles ne venaient pas toutes de Rouyn-Noranda.
On n'avait pas le droit de sortir plus tard que 10 heures. Les portes étaient fermées à l'hôpital là, quand on faisait notre cours. Ils ne nous laissaient pas sortir après 10 heures. C'était très sévère.
J'ai été la première à accepter que des garçons fassent leur cours aux soins infirmiers. Parce que je trouvais que vraiment, qu'il y ait du personnel qualifié, masculin, c'était un avantage.
L'après-guerre a eu une énorme influence sur l'apport technologique de tout ce qui a trait à la santé. On pense à la pénicilline qui devient plus populaire. Là, on peut soigner des gens de façon plus efficace. On a des moyens techniques. L'électricité aussi, qui change beaucoup la donne.
En 1970, j'étais encore propriétaire de l'hôpital. Et puis, l'hôpital a été cédé au gouvernement en 1972.